19h04, je vous rappelle, défaite d'Eugénie Bouchard du côté de Montréal qui s'incline face à Élise Mertens en deux manches de 6-2, 6-4. À Toronto, Félix Auger-Aliassime, victoire de 6-4, 6-3 face à Lucas Pouille. Et là, présentement, il y a Denis Shapovalov qui entre sur le terrain à Toronto pour affronter Jérémy Chardy. Coupe Rogers de tennis, ça prend beaucoup de place et à Toronto et à Montréal. C'est le temps de parler de business. Ray Lalonde est avec nous. Salut Ray.
Salut Jérémy.
Écoute, comment on arrive à bien quantifier l'impact commercial de la Coupe Rogers au Canada et à Montréal en particulier?
C'est une excellente question. Ça vaut à peu près 30 millions en impact économique pour la région de Montréal. Oublie pas que l'impact économique, pas toujours facile à évaluer, pas toujours facile à quantifier de façon précise. Mais c'est à la suite de nombreuses recherches, puis au fil des années, ça demeure un tournoi prestigieux, que ce soit homme ou femme. L'an dernier à Montréal, ça avait été un record d'assistance pour les hommes. Je pense qu'il y avait 217 000 personnes. Les femmes, le record d'assistance avait été établi, je pense, 181 000 en 2014. Bon, alors déjà, on remarque une petite différence en termes de popularité. Les bourses remises aux femmes sont moindres qu'aux hommes. Une différence quand même importante, à peu près dans le range de 500 000 $ pour la gagnante, tandis que les hommes compétitionneront à Toronto ou à Montréal l'an dernier pour à peu près 1 million de $. Donc, il y a encore une certaine disparité, si tu veux, Jérémy, entre les hommes et les femmes. Mais ça demeure, dans le cadre du tournoi féminin à Montréal cette semaine, un Premier 5, c'est-à-dire que c'est un peu comme le Masters 1000 pour les hommes. C'est la série de tournois les plus importants en dessous des tournois majeurs. C'est dans le US Open Series, c'est-à-dire que ça mène à New York en fin août, début septembre. Alors, tournoi prestigieux, destination incroyable, Montréal et Toronto. L'organisation d'Eugène Lapierre fait un travail exceptionnel. Le tournoi, c'est vraiment une place à être en été à Montréal.
Si le rendement des Canadiens et des Canadiennes était au-dessus des attentes au courant des dernières années, on voit ça diminuer un peu du côté des dames. D'ailleurs, on s'est arrangé à Tennis Canada pour offrir peut-être plus de support pour les dames. Mais vraiment, la popularité de nos joueurs et nos joueuses fait en sorte que ce tournoi-là est majeur. Comment va le tennis au Canada? Comment va l'industrie du tennis?
Moi, je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à Sylvain Bruneau, Louis Bourfiga, qui sont un peu les architectes de cette renaissance. Il y a quand même 5-6 joueurs-joueuses qui sont des compétiteurs mondiaux à l'échelle des top 50 ou top 100 au monde. Oh, il y a eu des percées d'Eugénie, il y a eu des percées de Milos Raonic aussi, mais tu sais, il y a une relève chez les hommes particulièrement qui est vraiment impressionnante. Ça, c'était du jamais vu. Moi, je me rappelle des années, il y a 25-30 ans, là où on avait Carling Bassett, qui était peut-être la seule Canadienne qui avait réussi à percer au niveau du tennis, puis elle avait pas vraiment gagné de tournois importants ou de tournois majeurs, mais elle compétitionnait. À l'époque des Chris Evert, puis Martina Navratilova, puis un peu après. Chez les hommes, on n'en a pas vraiment vu. Tu sais, Glenn Michibata, c'est un nom qui me vient en tête parce que je l'ai vu jouer, puis c'était impressionnant ce qu'il faisait avec sa petite stature, mais c'était tout un joueur de tennis. Il me rappelle beaucoup Diego Schwartzman. Mm-hmm. Mais on n'avait pas de Milos Raonic, on n'avait pas de talent qui s'élevait à chaque année.
Pas de Shapovalov non
plus. Pas de Shapovalov à l'âge de 19 ans, là, qui a fait une belle percée l'an dernier, qui est encore très solide cette année. Ils sont bien entraînés. Tennis Canada réinvestit. L'an dernier, là, les revenus à Montréal là, pour les 217 000 spectateurs, là, c'était aux alentours de 15 millions de $ en biens vendus, Jérémy. C'est de l'argent qu'ils réinvestissent dans le développement du tennis pour permettre aux athlètes dans le programme élite de se rendre jusqu'au bout. Ça coûte pas loin de 100 000 $ pour développer un ou une athlète de tennis à ce niveau-là. C'est un investissement important de la part de la fédération pour que le tennis au Canada devienne une force. Et on le voit parce que, honnêtement, écoute, il y a beaucoup de joueuses de tennis féminines aux États-Unis qui réussissent, en commençant par les sœurs Williams. Chez les hommes, ça a été un peu plus lent. Mais le Canada compétitionne presque à talent égal avec les Américains. C'est pas peu dire pour une population si grande où le tennis est si important aux États-Unis.
Si tu parles d'un investissement majeur pour les joueurs élites au Canada, pourquoi pas ne pas protéger cet investissement-là, entre autres, en plaçant un toit sur le Stade IGA, qui est un nouveau partenaire avec Tennis Canada. Parce que, veux pas, c'est des droits de télévision, c'est l'image du tennis canadien qu'on présente partout à travers la planète. Et ça a été un projet. Et c'est toujours sur la table. On en discutait avec Eugène Lapierre, directeur du tournoi. Comment tu vois le projet de mettre un toit sur ce stade IGA?
Je suis un peu neutre face à ça, Jérémy. Honnêtement, c'est le tennis, le baseball, là, on parle toujours de toit éventuel pour un stade de baseball à Montréal, puis un toit, le toit à Wimbledon, le toit au US Open, le toit en Australie. Il y a juste Roland-Garros qui n'a pas de toit, puis là, il procède à une énorme rénovation des installations à Paris. C'est toujours un petit peu controversé. Il fait beau en plein été à Montréal. Si tu me dis, est-ce que le toit vaut la peine pour un tournoi d'une semaine? Moi, je vais dire non. Si tu me dis, ça va servir au développement sur une base annuelle de 52 semaines, puis là, on est toujours bien protégé de la météo et des intempéries tout au long de l'année pour développer les jeunes, ah ben là, je suis plus en faveur d'un toit parce que c'est un investissement qui va s'amortiser au fil de plusieurs semaines, plusieurs années. On va en profiter pour développer. Mais pour le tournoi, les gens veulent être dehors, les gens veulent être au soleil. Est-ce que parfois il y a de la pluie? Bien sûr. Mais même si tu avais un toit pour le corps central, ça veut-tu dire que les autres terrains, ils ont un toit ou non? La réponse est non. Donc, la pluie va quand même t'affecter dans ton horaire de tournoi. Tu sais, encore une
mais
fois...
Mais si tu mets quelque chose de stable, ça peut devenir une salle également où tu peux présenter des choses.
Ah, bien
oui,
sûr.
Il y a le tennis, ça devient un lieu culturel où
tu peux jouer des matchs de basketball ouais. Là, dans un espace comme ça, bien entendu. Donc, je veux pas prendre une position où je suis contre l'idée d'un toit, mais c'est une dépense quand même importante. C'est la même chose qu'au baseball. T'aimes le baseball. S'il y avait un stade avec un toit en plein été, tu voudrais en profiter à l'occasion s'il pleuvait, certainement au mois d'avril lors du froid, puis au mois d'octobre si les éventuels expos étaient en série mondiale. Mais autrement, on veut être à l'air libre, au soleil, passer des soirées d'été à Montréal où il fait beau.
Le mot magique, c'est rétractable.
Ouais,
si
ouais.
Ça bouge, ça va bien, mais ça coûte plus cher. Parlez-en à Taillebert. Ceci étant dit, écoute, juste un dernier point sur la Coupe Rogers de tennis. C'est drôle, hein? On sent que, par moment, Toronto a pris la pole au Canada, puis définitivement a pris la pole sur Montréal, sur l'ampleur de la ville. Mais à la Coupe Rogers, on sent que Montréal tient son bout par rapport à Toronto.
Oui, bien, encore une fois, étant Montréalais, Québécois, c'est sûr que je vais toujours te dire que Montréal se positionne très bien face à Toronto. On a parlé, toi et moi, Toronto a eu une bonne année de sport. Ne serait-ce que la victoire des Argos l'an dernier en Coupe Grey, mais la performance des Leafs et des Raptors et ainsi de suite, les Blue Jays qui sont quand même bons depuis quelques années. Puis à Montréal, on a beaucoup de difficultés par les temps qui courent. Cependant, le Grand Prix à Montréal, c'est le Grand Prix le seul et l'unique au Canada en F1. En termes de tennis, c'est le centre d'entraînement national à Montréal. Toronto est un centre plus régional, si on veut. Les installations d'Eugène Lapierre à Montréal sont impeccables. On peut comparer ça facilement à n'importe quel tournoi Masters 1000 au monde. J'en ai vu de ces tournois-là de mes yeux, Jérémy. C'est une belle destination pour passer du temps l'été. C'est un bel événement. Et là, on a la météo qui collabore, puis on est les meilleurs joueurs au monde.
Ray, on passe du tennis à la F1 parce qu'aujourd'hui, une nouvelle qui est tombée, un consortium d'investisseurs entre autres comprenant Lawrence Stroll et André Desmarais qui font l'acquisition de Force India. Écoute, c'était écrit dans le ciel, tout le monde s'attendait à ça, mais c'est une bonne nouvelle, entre autres pour Lance Stroll d'un point de vue sportif. Mais comment tu vois justement l'apparition de Lawrence Stroll dans la F1?
Je trouve que Lawrence Stroll va apporter de la certitude, de l'assurance, de la stabilité à la F1. Même si la F1, c'est une énorme business et les gens de Liberty Media sont ultra riches et ont une énorme vision de l'avenir de la F1, surtout aux États-Unis, avoir un gars comme Lawrence Stroll qui se présente là en compagnie d'André Desmarais et quelques-uns de ses partenaires, ça rassure tout le monde. Ça prend une écurie en énorme difficulté, au bord de la faillite, et soudainement, on a un gars qui a les poches profondes, qui a une vision, qui est passionné, qui, lui, va trouver la façon de stabiliser les 400 employés, de payer les dettes, bien entendu, parce qu'ils doivent de l'argent à Mercedes, ils doivent de l'argent aux deux pilotes. Et surtout, ce qu'il va apporter, c'est peut-être même la promesse et l'espoir pour d'autres pilotes éventuels qui voudraient songer à peut-être aller se joindre à Force India, qui deviendra peut-être Force Canada, ou ainsi de suite. Mais je pense que Lance Stroll va être le premier à y aller, évidemment. Mais je pense que peut-être qu'on va pouvoir améliorer notre niveau de compétitivité en ayant l'assurance qu'on a un propriétaire en haut qui, lui, a une vision long terme, qui a l'argent pour le supporter et qui est aussi un passionné de course automobile. Alors, ça peut pas être une meilleure nouvelle pour Liberty Media que qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui.
Et surtout, ça va enlever un drôle de propriétaire, celui de Force India, qui était, blanchiment d'argent, problème avec le fisc. Disons que c'était pas évident pour notre ami du côté de Force India, là.
Non, puis le timing est bon. On est en pause pour 3 semaines. C'est un peu la mi-saison, si on veut. Et il fallait qu'il se passe quelque chose. De toute façon, il était en difficulté financière. Il était sous la prise de position de palier administratif pour contrôler les dépenses. Encore une fois, ça s'est fait rapidement. On avait vu venir le coup. Lawrence Stroll a pris son temps. C'est sûr que c'était juste une question de temps. Est-ce que c'était cette écurie-là ou une autre? Ça fait longtemps qu'il parlait avec Bernie Ecclestone à l'époque de peut-être trouver une façon d'avoir un rôle à jouer. On l'a même pressenti à un moment donné pour être peut-être l'éventuel remplaçant de Bernie Ecclestone. Et là, il se retrouve dans une situation où c'est son écurie immédiatement. Là, immédiatement, là, lui peut agir. C'est une transaction qui va se conclure très rapidement pour qu'il puisse effectivement avoir un impact et donner un nouveau souffle à Force India.
Quand même, 400 employés, Force India, je pensais pas que c'était gros comme ça.
Tu sais, quand tu parles de la valeur de ces écuries-là, là, Mercedes, Ferrari, McLaren, évidemment, sont les grosses. Ferrari, ça vaut à peu près 1,8 milliard de dollars canadiens. Celle-là, à peu près 350 millions. Alors, abordable. Le problème, Jérémy, en F1, c'est qu'il n'y a pas de parité. C'est toujours les 3-4 mêmes qui gambent, les 2-3-4 pilotes aussi. C'est difficile pour les parents pauvres d'avoir une chance. Un gars comme Lawrence Stroll peut apporter de l'espoir que l'équipe va être meilleure. Il va peut-être investir plus d'argent. Écoute, Force India, là, ça valait, c'est ça, 350 millions. Les revenus en 2016, de 100 millions de dollars seulement. C'est 250 à 300 millions de dollars de moins que Ferrari en revenus. Donc, les plus riches deviennent riches, les plus pauvres souffrent beaucoup. Un gars comme Lawrence Stroll va apporter plus de stabilité pour faire en sorte que l'argent se répartit et que les chances de gagner pour les plus faibles soient meilleures. Donc, encore une fois, une bonne nouvelle pour Liberty Media.
Ray Lalonde, en terminant, comment ça se passe, ta chaîne YouTube, Focus?
Focus, le nouveau podcast, 5 jours par semaine. 5, 6, 7 minutes dépendant. Ça dépend de ce que j'ai à dire, Jérémy, mais je te le dis, je suis très heureux.
T'es capable de te limiter?
Je suis capable de me limiter à 5, 6 minutes. L'important, c'est un sujet, c'est un enjeu, c'est une nouvelle qu'on décortique, qu'on analyse quotidiennement. Alors, je vous encourage à suivre puis à l'écouter, à vous abonner à la chaîne YouTube. Suivez-moi sur Twitter puis envoyez-moi une chance, une question, par exemple, si vous voulez une chance d'avoir une réponse. Ça me fait plaisir de toucher beaucoup de sujets différents. Demain matin, on parle de la NBA et de l'avant-gardisme de la Ligue.
Oh, écoute, j'ai déjà hâte d'écouter ça. Ray Lalonde, toujours un plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci, Jérémy.
Merci. On va s'arrêter quelques instants au retour. Évidemment, c'est une légende qui s'éteint du côté des Blackhawks de Chicago. Stan Mikita, son partisan numéro un, Paulo, sera avec nous. Et d'un point de vue sportif, à quoi ça ressemble du côté de Lance Stroll, l'arrivée de Lawrence Stroll en F1 chez Force India? Est-ce que Lance va changer de place? Ben là, j'ai comme l'impression que c'est... Peut-être que oui. On en a tout ça au retour avec Philippe Lagu.